Bonjour à tous. Déjeuner de réconciliation ou bien soupe à la grimace. Emmanuel Macron déjeune avec le président du Conseil italien Giuseppe Conte, le pro-européen et l'eurosceptique, le libéral et le protectionniste, tous les opposent. À commencer par la question des migrants et les polémiques autour de l'Aquarius, rien n'est réglé au fond du dossier. France Télévisions, M6 et TF1 ou l'union publique-privée contre les géants américains, les Français veulent créer Salto pour concurrencer Netflix. La grève à la SNCF pourrait continuer cet été. La CGT cheminot veut des arrêts de travail en juillet. La CFDT pense qu'il faut se mobiliser différemment. Des blessures chez les jeunes filles, une addiction psychologique chez les garçons et dans tous les cas une représentation biaisée de la sexualité. Des médecins appellent à protéger les enfants et les ados de la pornographie. La médecin gynéco Rada Atem est notre invitée dans ce journal. Une grande page football, Coupe du Monde en Russie, conférence de presse de l'équipe de France à l'instant. Nous retrouverons Xavier Monferrand sur place et nous évoquerons le dieu Salah, Mohamed Salah, la star de l'équipe d'Égypte, qui est remplaçant cet après-midi pour le match de l'Égypte contre l'Uruguay. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore beaucoup de nuages?
Oui, surtout du sud-ouest à la Lorraine avec en prime quelques pluies, de part et d'autre des éclaircies, parfois une averse sur le sud des Alpes, sur la montagne Corse. Pour les températures, 17 à 22 degrés à l'ouest, jusqu'à 24 en allant vers l'est du pays et 28 pour la Méditerranée.
Et pour ce week-end, Élodie?
Alors ce sera calme, encore bien nuageux, mais avec vraiment très peu de pluie. Ça s'arrangera en milieu de semaine prochaine. Plus de soleil, de la chaleur. Le jour de l'été s'annonce beau et chaud.
Merci Élodie. Bulletin complet dans une demi-heure.
France Inter.
À l'heure où nous parlons, l'Aquarius se trouve à l'ouest de la Sardaigne, direction Valence, via les Baléares. Le bateau avance à 11 nœuds par heure, c'est à peu près 20 km/h. Le vent s'est calmé, mais le capitaine craint un gros grain demain et pense arriver en Espagne dimanche dans la journée. L'Aquarius transportait 629 réfugiés partis de Libye. Deux navires italiens en ont récupéré une partie et naviguent avec lui. Mais pas question, on le sait que l'Italie accueille ses migrants. Depuis le début de la semaine, donc, Rome et Paris s'invectivaient sur la question. On a cru que Giuseppe Conte annulerait sa visite à Paris aujourd'hui, mais finalement il vient. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Frédéric Mettezo.
Sur la question des migrants, les deux dirigeants vont jouer la réconciliation, mais sur le fond, les problèmes sont loin d'être réglés.
Et c'est pourquoi la France et l'Italie sont obligées de tirer un trait sur les déclarations désobligeantes entendues de part et d'autre pendant 48 heures. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se sont parlé au téléphone dans la nuit de mercredi à jeudi pour arrondir les angles. L'Élysée démentant tout propos offensant envers l'Italie et le chef du gouvernement italien estimant que le contentieux était clos. Alors au menu de ce déjeuner aujourd'hui, la question de la charge très inégale qui pèse sur chacun des pays de l'Union européenne. La France bloque à la frontière et renvoie vers l'Italie des milliers de migrants qui ont débarqué dans les ports italiens, d'où une situation inextricable près de Vintimille où les réfugiés s'entassent. Selon l'ONG Oxfam, 16 500 d'entre eux sont passés par cette localité proche de la frontière française entre juillet 2017 et avril 2018. L'Italie ne parvient plus à les gérer et voudrait que le reste de l'Europe prenne une part du problème. C'est la question du fameux règlement de Dublin qui permet actuellement de renvoyer les migrants vers leur premier pays d'accueil. Une réforme de ce système est un sujet brûlant pour l'Europe de l'Est. Paris et Rome veulent des initiatives, on ne sait pas encore lesquelles, au minimum, et c'est assez peu. Les deux capitales pourraient tomber d'accord pour renforcer la protection des frontières terrestres et surtout maritimes de l'Union européenne.
Bertrand Galichet. Ce matin, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a lancé un appel, je cite, pour une nouvelle Europe où les égoïsmes nationaux ne prévaudront pas. La crise migratoire, justement, c'est l'objet du vrai faux de l'Europe du vendredi. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La France et l'Italie s'accusent donc de ne pas prendre leurs responsabilités sur la question des réfugiés. On va d'abord écouter à ce propos Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Il était sur CNews en début de semaine.
Si nous apportons des solutions, chacun chez soi, chacun enfermé dans ses frontières, chacun en regardant ses propres intérêts nationaux, nous n'y arriverons pas. La France, elle a pris sa part. L'an dernier, nous avons 100 000 migrants qui sont arrivés sur le territoire national. Nous en avons régularisé et délivré un titre d'asile à près de 32 000 d'entre eux.
Alors Delphine Simon, est-ce que la France prend sa part de migrants, comme l'affirme le porte-parole du gouvernement?
Plutôt non. La France, deuxième économie de la zone euro, est le deuxième pays à recevoir le plus de demandes d'asile derrière l'Allemagne. Jusque-là, c'est logique. Environ 100 000 demandes en 2017. Mais si on regarde le taux d'accueil, la France est vraiment en queue de peloton. peloton européen, 26e sur 28 selon Eurostat, juste devant la République tchèque et devant la Pologne. On peut donc pas dire que la France prend sa juste part de l'accueil des réfugiés en Europe, comme le fait Benjamin Griveaux.
Benjamin Griveaux qui le reconnaît lui-même, hein, sur 100 000 migrants, 32 000 ont bénéficié de l'asile en France.
Oui, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, et ça équivaut à moins d'une réponse positive sur trois. Une sur trois en France contre 50% en Allemagne. En Europe, la moyenne, c'est d'accorder la protection aux réfugiés dans un cas sur deux.
Alors que fait l'Europe pour essayer de rétablir l'équilibre?
La Commission européenne a initié il y a trois ans un mécanisme pour soulager les pays les plus exposés, Italie, Grèce. Objectif, répartir 100 000 réfugiés dans d'autres pays en fonction de critères comme leur PIB ou leur population. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un échec à peu près total. Bruxelles publie régulièrement le tableau de bord de cet accueil. Début juin, seul un tiers de l'objectif a été réalisé. En France, c'est encore moins, à peine un quart, 5029 réfugiés, c'est précis. Mais seuls 635 viennent d'Italie, soit 9% du quota français. Ce qui explique aussi la colère du gouvernement italien en ce moment. Si la Finlande et la Suède jouent le jeu. D'autres pays ont refusé tout net. La République tchèque, la Pologne et la Hongrie, on le voit, ça ne marche pas, mais alors pas du tout. Mais face à l'incapacité des dirigeants à réformer ces règles, eh bien certains députés européens menacent désormais de traduire le Conseil des dirigeants européens devant la Cour de justice pour leur inaction.
Delphine Simon, le vrai faux de l'Europe. C'est une manie, décidément. On avait déjà parlé d'une CNN à la française, d'une BBC à la française pour créer de nouvelles chaînes ou pour réformer l'audiovisuel public. Eh bien, voici maintenant le Netflix à la française. Plusieurs groupes de télévision veulent en effet créer une plateforme de vidéo à la demande capable de concurrencer Netflix ou Amazon. Il s'agit de TF1, M6 et France Télévisions qui pèsent déjà plus de trois quarts de la création française. Et ce n'est peut-être pas fini puisque d'autres partenaires pourraient les rejoindre dans cette plateforme baptisée Salto. Sébastien Sabiron, on remarque d'abord cette alliance assez inédite entre public et privé.
Oui, c'est une grande première dans cet univers très concurrentiel. L'union sacrée face au mastodonte de la vidéo à la demande. Pour vous donner une idée, Netflix investit chaque année 8 milliards d'euros dans les contenus, en achats de programmes ou en production originale. C'est deux fois plus que France Télé, TF1 et M6 réunis. Mais ce nouvel attelage est déjà un bon début pour Nathalie Sonnac, membre du CSA et spécialiste de l'économie des médias.
Le fait de construire ensemble une plateforme commune va renforcer la position de l'audiovisuel dans toute l'intégralité de ses programmes, à savoir les séries, les films, les documents, l'animation, ce qui nous permet d'avoir une plus grande visibilité sur le territoire européen, voire ensuite sur le territoire international. Donc c'est un premier pas et je pense qu'aujourd'hui on peut s'arrêter juste sur le fait que c'est une excellente nouvelle.
Comme Netflix, Salto sera disponible sur tous les écrans, un catalogue de films, séries, documentaires donc, pour un abonnement de base à moins de 5 euros, qui pose la question des droits d'auteur. Car jusqu'à présent, les chaînes payent des droits de diffusion sur leur antenne, puis quelques jours en replay. Demain, il faudra donc convaincre les producteurs de céder leur programme au catalogue Salto. Philippe Bailly de NPA conseille à un cabinet spécialisé dans les médias.
Ça se réglera évidemment moyennant finances et rémunérations. Une des voies que France Télévisions avait commencé à explorer avec les producteurs, c'est d'aller vers du partage de recettes, donc que les producteurs soient intéressés au développement de la plateforme, plutôt que de devoir payer dès le démarrage des sommes extrêmement importantes.
Et le grand absent de cette nouvelle aventure s'appelle Canal+. Canal+ et ses 5,5 millions d'abonnés. Canal+, qui a déjà son offre de vidéos à la demande. Canal Play, une concurrente directe de Netflix, et qui continuera donc à faire cavalier seul, en attendant peut-être un jour une grande plateforme européenne, cette fois de SVOD.
Le gouvernement avance toujours à son rythme sur la réforme de la SNCF après l'adoption définitive de la loi hier au Parlement. La ministre des Transports reçoit cet après-midi les syndicats du secteur ferroviaire. À l'ordre du jour, la future convention collective nationale du secteur qui devra tenir compte de la fin progressive du statut des cheminots et de l'ouverture à la concurrence. Officiellement, l'intersyndicale fait bloc, mais la CGT veut poursuivre la grève en juillet au-delà du calendrier prévu. Laurent Brun, chef de file de la CGT cheminot.
nous avons le mandat des cheminots de continuer la bataille sur la question de cette réforme, parce que vraiment, c'est une mauvaise réforme. Et donc, nous avons un débat sur la manière de continuer la lutte, tout en essayant de préserver un peu les familles par rapport au coût de la grève. Ce qui est sûr, c'est que, pour ce qui concerne la CGT, nous l'avons annoncé, nous allons poursuivre sur le mois de juillet, combien de temps on verra, comment on verra, mais il n'est pas question de s'arrêter au calendrier, puisque le gouvernement, lui, souhaite passer en force malgré la réalité des faits.
À la CFDT, c'est le contraire. On envisage un assouplissement. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, veut croire d'ailleurs que le combat a payé.
La CFDT a formulé un certain nombre de propositions. La phase parlementaire, elle est terminée. La CFDT a agi à travers des propositions d'amendement à l'Assemblée et au Sénat, non sans résultat. Même si sur le fond de la réforme, il y a des désaccords qui évidemment sont très importants et qui subsistent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra à un moment donné passer à d'autres formes de discussion et de mobilisation. Vous avez remarqué que la semaine prochaine, la CFDT cheminot, elle a décidé de ne pas perturber le bac. Et ensuite, la CFDT cheminot, la semaine prochaine, se positionnera sur la poursuite ou non. Je pense qu'il y a d'autres manières de se mobiliser que de continuer la série de grèves.
Voilà, la CFDT et la CGT, plus vraiment sur la même ligne. Laurent Berger et Laurent Brun étaient ce matin sur France Info. C'est l'un des plus gros plans de suppression d'emplois en France. Carrefour souhaite se séparer de 485 salariés dans ses magasins et de 1700 autres dans les anciens DIA, rachetés par le groupe. Sans oublier 2400 personnes déjà parties du siège après un plan de départ volontaire et plusieurs autres centaines d'emplois supprimés en Belgique et en Argentine. Tout cela n'a pas empêché l'ancien PDG Georges Plassat de toucher 13 millions d'euros pour ses 6 derniers mois passés à la tête de Carrefour début 2017. 13 millions en salaire ou en actions, dont 4 millions en clause de non-concurrence. Et oui, sait-on jamais qu'il soit débauché à 68 ans, sachant qu'il a raté le tournant du drive et de l'achat en ligne pour Carrefour. Aujourd'hui, le groupe Carrefour tient son assemblée générale à Aubervilliers, près de Paris. Les actionnaires et les dirigeants du groupe ont eu droit à un comité d'accueil avec Corne de Brume et salariés en colère, comme Wafa Fort.
On est venu dénoncer l'engraissement des actionnaires et surtout de l'ancien PDG. Il est parti avec un gros chèque, il est pour ses bons résultats et il a laissé 2100 salariés au carreau de 273 fermetures de magasins. On a 29 magasins qui sont repris et le reste ils vont fermer d'ici entre le 30 et le 13 juillet. C'est honteux, on comprend pas comment on peut donner autant d'argent pour un ancien PDG qui lui a mis des magasins dans cet état-là et en même temps on lui donne un chèque pour le remercier pour ses bons résultats. Je comprends pas. Voilà, nous on comprend pas. Les salariés comprennent pas.
Reportage devant l'Assemblée Générale du groupe Carrefour à Aubervilliers, reportage de Sarah Lemoine. Cet après-midi, Assemblée Générale du groupe Renault Nissan Mitsubishi, les actionnaires devraient reconduire Carlos Ghosn comme PDG, théoriquement pour 4 ans, mais Carlos Ghosn pourrait passer la main en cours de mandat et devenir président non exécutif.
Le journal de 13h sur France Inter.
Leur arrestation et le placement en garde à vue de certains d'entre eux avaient fait réagir. Le 22 mai dernier, la police interpellait 101 lycéens et étudiants, dont une quarantaine de mineurs. Ils étaient entrés dans le lycée Arago à Paris pour dénoncer la loi ORE, réformant l'enseignement supérieur, et aussi le dispositif Parcoursup. Aujourd'hui, 14 majeurs sont jugés pour préparation de violence et intrusion dans un établissement scolaire. Charlotte Piret, vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Les 14 prévenus ont droit à un comité de soutien.
Oui, ils sont près de 200 rassemblés en ce moment devant le palais de justice des Batignolles. Beaucoup de drapeaux syndicaux, quelques personnalités comme Philippe Poutou, mégaphone ou encore banderoles sous les pavés La Relaxe ou Dernière Sommation Relaxe de tous les inculpés. Des revendications que vous entendez peut-être dernièrement qui vont bien au-delà du cas des 14 jeunes majeurs jugés en comparution immédiate. L'audience débute dans quelques instants puisqu'on y retrouve pêle-mêle des critiques de la réforme du Parcoursup, des répressions policières ou plus généralement de la politique d'Emmanuel Macron. Les 14 personnes directement concernées. Elle devrait donc répondre de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, mais aussi d'intrusions dans un établissement scolaire, les prévenus n'étant pas élèves au lycée Arago. Le lycée qui déplore notamment des dégradations, portes fracturées, vitres brisées, mais aussi le vol de 22 tablettes numériques. Quand les parents des prévenus rappellent, eux, qu'ils sont restés plusieurs jours dans l'ignorance de l'endroit où leur enfant a été gardé à vue, à 26 dans une cellule pleine d'urine, dénonce cette maman d'un étudiant en licence de 20 ans, avant d'ajouter: le pire dans tout cela, c'est que ces arrestations n'ont aucun caractère pédagogique. Ils sont encore plus remontés aujourd'hui. Au palais de justice des Batignolles, Charlotte Piret, France Inter.
Il est 13h14. Alors qu'Emmanuel Macron pose la question de façon un peu abrupte de l'efficacité des politiques publiques, gros plan à présent sur la protection de l'enfance en danger. Le Conseil économique, social et environnemental vient de plancher sur la question et selon lui, il y a urgence à agir. En effet, aujourd'hui, presque un quart des sans-abri nés en France sont d'anciens enfants placés. Le Conseil propose donc de mieux accompagner les jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance, car passé 18 ans, Yann Galic, ils ne sont quasiment plus suivis et se retrouvent parfois sans ressources.
Jusqu'à sa majorité, Liès a connu le parcours tumultueux d'un enfant placé entre les foyers et les familles d'accueil. Il a parfois été victime de maltraitance sans véritable repère. À l'âge de 18 ans, Liès a dû se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins.
Malheureusement, j'ai pas eu le choix puisque à 16 ans, on m'a dit que voilà, il fallait absolument que je fasse un CAP pour être diplômé à 18 ans et ne plus avoir besoin de l'aide sociale à l'enfance. Ça a vraiment, je pense, impacté mon parcours professionnel. J'ai grandi avec cette angoisse de finir à la rue à 18 ans. Quand on est placé, on nous dit « fais attention, à 18 ans, si t'as pas un minimum de bagages, si tu ne travailles pas, tu seras à la rue, tu n'auras rien et tout sera foutu pour toi ».
Faute de mieux, Liès a enchaîné les petits boulots dans la restauration avant de reprendre ses études pour devenir éducateur spécialisé.
Ça signifie quand même, à 22 ans pour moi, avoir mis de l'argent de côté, chose qui n'est pas toujours aisée, parce qu'il faut continuer d'assumer son loyer, enfin bref. Et moi, j'ai repris des études assez tardivement. Ouais. Quand on dit aujourd'hui à un jeune qui est placé, qui a un travail, qui a un logement, que oh, finalement, il s'en est plutôt pas si mal sorti, c'est toujours se poser la question de savoir, oui, mais à quel prix ?
Le Conseil économique et social propose d'instaurer une allocation spécifique qui permettrait à tous les jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'une protection financière, au moins jusqu'à la fin de leurs études.
Comment protéger nos enfants et les adolescents de la pornographie ? Des médecins français lancent un appel solennel. Il faut lutter contre ce phénomène. Le Conseil national des gynécologues et obstétriciens tenait ce matin un colloque sur la question à Paris. Selon l'Institut Ipsos, 46% des garçons et 28% des filles de 14 à 24 ans ont déjà vu des vidéos porno, volontairement ou pas. On va arrêter là avec les chiffres et on va s'attacher aux conséquences avec vous. Bonjour Hada Atem.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, vous exercez en Seine-Saint-Denis. Les gynécologues s'emparent de la question du porno parce que dans vos cabinets, vous voyez en quoi cela peut influencer la sexualité des jeunes adultes et comment, par exemple, des jeunes filles peuvent être victimes de violences gynécologiques. Vous les voyez dans votre cabinet, ces jeunes filles ?
Tout à fait. Ce ne sont pas des violences gynécologiques parce que les violences gynécologiques sont celles commises par les gynécologues. Nous sommes confrontés à des jeunes filles qui vivent des violences sexuelles, des agressions déjà par les images, et ensuite des agressions parce que le modèle que donne cette pornographie est un modèle de sexualité agressive, dominante, violente, et que ça devient la norme. Et donc elles se sentent obligées de se conformer à cette norme par peur d'être ridicule, de passer pour un bas bleu, d'être exclues du groupe. Et puis les images qu'elles voient, qui sont des images retouchées ou des images d'adolescentes prépubères, montrent des sexes de femmes qui n'ont rien à voir avec des sexes de femmes adultes, avec des toutes petites vulves, des petites lèvres minuscules, et ça leur donne une norme qui n'est pas réelle, et elles viennent nous demander de rectifier leur sexe parce qu'elles en ont honte, parce qu'elles n'osent pas se laisser toucher, se laisser regarder par un garçon, tellement elle se trouve monstrueuse.
Il faut dire également, Hada Atem, que les garçons ont une représentation biaisée du corps des femmes et des pratiques sexuelles.
Bien sûr. Déjà, ça leur donne une représentation biaisée de ce qu'est la sexualité normale. Quand ils regardent ça, ils ont l'impression qu'un sexe d'homme, c'est démesurément long, qu'on peut bander pendant une heure non-stop, que l'éjaculation, c'est des litres. Et en se comparant à ces modèles-là, évidemment, ça génère chez eux une grande angoisse parce qu'ils ne ressemblent pas à ça. Et puis, ça leur donne une espèce d'autorisation morale. C'est vrai, puisque je l'ai vu sur Internet, que c'est comme ça qu'on fait l'amour, que je dois être violent, que c'est la sodomie le mieux, que je peux utiliser des objets, que, bien sûr, je sais, je l'ai vu sur Internet, tu dis non, mais en vrai, tu dis oui, parce que c'est ça qui va te faire du bien, et que j'ai bien regardé pour apprendre qu'est-ce qui te fait plaisir. Donc ça les met tous les deux en fait dans des postures fausses, violentes et extrêmement traumatisantes.
Vous vous rendez vous-même personnellement dans des classes de lycée en Seine-Saint-Denis où vous êtes donc médecin gynécologue. Vous voulez donner envie aux ados de penser autrement. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces ados quand vous parlez sexualité avec eux ?
Il y a différentes réactions. Certains sont terrorisés. Parce que je pense qu'on leur a raconté des sornettes en leur disant tu vas te faire manipuler, elle va te donner envie de devenir une prostituée ou de te masturber tout le temps. Il y a des parents qui ont une vision de la sexualité qui est effrayante. Il y a d'autres parents qui interdisent à leurs enfants de venir au prétexte que on défend une sexualité épanouie, le droit à l'avortement, le respect, l'égalité, le consentement. Donc tout ça, souvent pour eux, c'est très nouveau. Et quand on leur donne des exemples, qu'est-ce que tu ferais si... Eh bien, leurs réponses sont parfois très troublantes. Si la fille veut pas, je peux demander à un copain de la tenir. Ou bien, si j'ai envie de la sodomiser, je suis peut-être pas obligée de lui demander la permission. Je vais y aller direct parce qu'elle va pas vouloir. Mais ma sœur, il est hors de question qu'elle sorte avec une jupe. Moi, je dois surveiller ma sœur. Et quand on lui dit, mais est-ce que tu dis à ton frère de ne pas siffler une jeune fille qui est vêtue comme elle l'entend? Moi, je dois surveiller ma sœur. C'est l'honneur de la famille. Donc voilà ce qu'on entend et voilà ce qui nous donne envie d'être à leur côté et peut-être de leur parler un langage qu'ils n'ont pas l'occasion d'entendre ailleurs.
Docteur Hatem, le journal Le Monde révélait cette semaine des études en Angleterre et aux États-Unis selon lesquelles la libido des 18-24 ans est en baisse. C'est en quelque sorte la première génération à avoir eu accès massivement au porno sur Internet. Est-ce que vous établissez un lien ? Est-ce que le porno tue le désir ?
Oui, j'ai vu cette étude et effectivement, j'ai pas été surprise parce que c'est une réponse à quelque chose qu'on n'a même pas eu envie. Et du coup, ça éteint tout imaginaire, tout érotisme, toute sensualité. Et finalement, c'est une espèce de consommation immédiate. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et ça ne m'étonne pas du tout que la vraie sexualité soit beaucoup moins intéressante.
Merci beaucoup, docteur Rada Hatem, gynécologue en Seine-Saint-Denis. J'ajoute que le Conseil national des gynécologues et obstétriciens français vient de produire un rapport très complet sur cette question du porno et des plus jeunes. C'est un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Liaison satellite assurée par notre technicien Yvan Turc. Le football est aussi universel qu'une religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'archevêque de Rouen, interviewé ce matin par l'agence France Presse. Monseigneur Lebrun, qui fut plus jeune arbitre de football, déclare « Le football touche en nous des fibres profondes, pas très loin de ce que le croyant peut ressentir. Une joie intense, une forte attente, une déception, une aventure, un dépassement de soi, un retournement de situation inespéré, un destin tragique, rien que ça. » Alors on va se permettre un peu de filer la métaphore religieuse, conférence de presse des Bleus aujourd'hui. Bonjour Xavier Monferrand.
Dobre dien Frédéric, bonjour.
Oh, qu'est-ce que vous le dites bien. Vous avez recueilli, Xavier, les saintes paroles du capitaine Hugo Lloris et du sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, et pour résumer, peu importe la jeunesse, pourvu qu'on ait le talent, c'est un peu en substance que nous ont dit le capitaine et le sélectionneur des Bleus, car cette équipe devrait être très jeune demain face à l'Australie, si la tendance se confirme, avec en défense Pavard et Hernandez, 22 ans chacun, et que dire des flèches devant Dembélé, 21 ans, et Kylian Mbappé, 19 ans, soit 24 ans et demi de moyenne d'âge, la plus jeune équipe alignée sur ce mondial et la plus jeune équipe de France alignée en ouverture d'une Coupe du Monde depuis 1930. C'est vous dire, Didier Deschamps estime que c'est bien pour l'équipe, que ces joueurs ont la qualité pour être à la Coupe du Monde et qu'ils sont habitués avec leur club aux grandes compétitions. Le manque d'expérience, un inconvénient, reconnaît Hugo Lloris, le capitaine, mais c'est une génération très talentueuse, capable de mettre de la folie, une équipe pas du tout déstabilisée par l'annonce d'Antoine Griezmann, qui restera donc à l'Atlético Madrid, mais surtout la mise en scène surréaliste de cette annonce. Ils ont pris ça au second degré. Les Bleus, selon leur capitaine Didier Deschamps, est ravi de voir son joueur débuter le mondial l'esprit libre. La forme, il s'en moque. Il nous a même dit dans un éclat de rire que c'est lui qui avait filmé.
Spasiba Bolshoï, Xavier Monferrand. Spasiba. Et Pierre Quintard en direct de Russie. France-Australie, c'est demain samedi à midi. Avant ce match des Bleus, demain, trois rencontres. Aujourd'hui, à 17h, Maroc Iran, les Iraniens privés au dernier moment de leur basket Nike, sanctions américaines oblige. À 20h, une affiche digne d'une finale, Espagne-Portugal. Et dans 35 minutes désormais, Uruguay-Égypte. L'Uruguay, double champion du monde à la recherche de sa gloire d'antan, aligne ses stars, Suarez et Cavani. Mais en face, l'Égypte devrait pouvoir compter sur son demi-dieu, Mohamed Salah. Il avait été blessé à l'épaule avec Liverpool en Coupe d'Europe. Les Égyptiens ont craint qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde. Finalement, il est là, il est remplaçant cet après-midi, mais il est là. Et en Égypte, c'est le plus important. Au Caire, François Hume.
La télévision est installée par quelques bédouins sous une tonnelle au milieu de la plage vierge. Le paysage est somptueux, les montagnes sèches et ciselées du sud Sinaï surplombent le golfe d'Aqaba. C'est ici qu'Ahmed regardera l'équipe nationale et la star Salah entrer en jeu.
Pour une fois, Salah va détourner notre regard de la mer. On ne va pas arrêter de le regarder jouer. C'est un magnifique panorama et on est impatient de le voir jouer ici. Si on gagne, ça va être le meilleur Aïd de notre vie.
Car pour le premier jour de l'Aïd el-Fitr, de nombreux Égyptiens seront en voyage. Un peu plus loin, les cafés de la station balnéaire ont déjà recouvert leur devanture d'immenses photos du pharaon Salah, les bras tendus, paumes de main ouvertes vers le ciel.
J'aime bien Mohamed Salah, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il a aussi une coupe de cheveux sympa, un grand sourire, et il est très gentil. Il aide tous ceux qui le demandent dans son village natal.
Coup d'envoi à 14h contre une équipe solide, l'Uruguay de Luis Suarez. À Dahab, dans le sud Sinaï, François Imferkataji, France Inter.
Autre idole pour un autre peuple en France, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans aujourd'hui. Une messe anniversaire est donc donnée en ce moment même à la Madeleine, l'église de ses obsèques, le 9 décembre dernier à Paris. Aujourd'hui, le temps est aussi lumineux, mais il fait bien plus chaud que le jour de l'enterrement. On est loin du million de fans éplorés, mais avant la messe, un millier de fans s'étaient retrouvés pour un premier hommage dans l'église. Jacqueline Pétrose, vous êtes en direct de la Madeleine.
Oui, ce matin, c'était émotion, ferveur et rock'n'roll dans l'église. Dès les premières heures, ils étaient là. Ces fans pour qui Saint-Barth est trop loin ont fait de l'église qui fut le dernier passage de Johnny le lien avec leur idole. Il y a eu des larmes, bien sûr, mais surtout, ils ont chanté, applaudi. Ils étaient venus de toutes les régions, comme Maud des Bouches-du-Rhône.
57 ans que je suis fan de Johnny. Pour moi, il n'est pas mort. J'ai pas pu venir à l'enterrement parce que je me serais écroulée. C'est mon frère spirituel, tout simplement. Et le jour où je vais mourir, mes enfants savent que sur ma tombe, il faut écrire « Ici repose la femme de Johnny ».
Alors, le cœur serré, Henri et Claudine de Strasbourg se souviennent qu'il y a un an, eh bien, ils assistaient à un concert des Vieilles Canailles.
J'ai été voir son dernier spectacle, au mois de juin dernier. Et j'avais trouvé que sur scène, il avait encore sacrément de la voix.
Vous savez, j'aurais jamais pensé qu'il était tellement, tellement malade. Non, vu sur scène au mois de juin, là, il était extra. Le souvenir ne s'arrêtera jamais de toute façon.
Alors le chanteur Chris Evans a entraîné toute la séance avec la musique que j'aime, Vivre pour le meilleur, Charlie. Et les fans ont plusieurs fois scandé le nom de Johnny. Ils ont même entonné Joyeux anniversaire à plusieurs reprises, transformant l'hommage en ultime concert, cette fois avec leur idole.
Ah oui, ça s'entend. Merci beaucoup Jacqueline Pétrose et Marcos Daras en direct de La Madeleine à Paris. 13h27, la météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Beaucoup de nuages et peu de pluie, Elodie Calac.
La perturbation arrivée hier par la Manche s'étend de la Nouvelle-Aquitaine et du Massif central jusqu'au Berry, à la Bourgogne et à la Lorraine, avec quelques pluies du sud-ouest à la Bourgogne. De part et d'autre, c'est plus clément, on trouve des éclaircies très belles près des côtes de la Manche. On n'est pas à l'abri d'une averse sur le sud des Alpes et la montagne Corse, voire un coup de tonnerre. Côté thermomètre, pas plus de 18 degrés à Cherbourg et à Tarbes, 21 à Rennes ou à Agen, 23 degrés à Lille et à Paris, 24 à Strasbourg, à Lyon, 26 degrés à Perpignan et 28 du côté de Toulon. Demain, beaucoup de nuages, parfois une petite ondée, plus de soleil sur le quart sud-est, au nord de la Seine également. Il fera 17 à 24 degrés et 25 à 30 sur la façade est et près de la Méditerranée.